Je suis artiste, artiste visuel. Je travaille beaucoup à partir d'éléments de guerre que je collectionne un petit peu de tous les conflits, toutes les époques. Je cherche à récupérer un maximum d'objets guerriers et que j'accumule et je réalise des sculptures à partir de ces éléments. J'essaye un petit peu de les transmuter en d'autres choses et souvent leur donner un aspect spirituel, comme dans les œuvres qui sont exposées dans cette exposition. Vous avez une pièce qui s'appelle Spirit's House, qui est une petite maison fabriquée entièrement en éléments d'armes à feu, en balles, en petits obus, en missiles. Et pour cette petite maison, je me suis inspirée en fait des Spirit House thaïlandaises. C'est la maison des esprits qu'on place devant sa maison, dans laquelle vivent les esprits, dans laquelle les Thaïlandais font des petites offrandes, etc. Et moi j'ai eu donc cette idée que cette maison soit entièrement en armes. C'est un petit peu une sorte de transmutation de cette idée spirituelle d'abriter les esprits. Et toutes les armes sont issues de vrais conflits réels. Je travaille jamais avec des faux objets, donc ils sont très chargés autant de façon simple que de façon symbolique. Et voilà, c'est un petit peu mon sujet.
Avant de revenir aux œuvres exposées ici, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment est-ce que tu es devenue artiste ?
J'ai voulu être artiste à peu près au moment du lycée, sans savoir exactement ce qu'était l'art contemporain. J'étais dans une vision assez romantique de l'art, plutôt les peintres, dessinateurs. Et j'ai eu un choc un petit peu en entrant aux Beaux-Arts de Dijon. J'ai vraiment découvert toutes les possibilités de l'art contemporain. Ça pouvait être dans des domaines de recherche très très élaborés, on pouvait s'adresser à des scientifiques, travailler avec toutes sortes de personnes. Dans mon travail, je travaillais avec des armuriers, des colombophiles, des jardiniers. Enfin, j'ai trouvé que ce champ de l'art contemporain amenait des possibilités immenses de recherche. Donc je suis rentrée aux Beaux-Arts de Dijon, je suis partie ensuite aux Beaux-Arts de Caen. Et c'est là que tout mon travail lié à la guerre a commencé, parce que j'ai vraiment remarqué tous les stigmates de la guerre qui sont encore très présentes là-bas. Et j'ai pu récupérer beaucoup d'éléments grâce à des démineurs, donc beaucoup de balles neutralisées. C'est un petit peu là-bas que j'ai eu mon choc lié à ces zones guerrières. Et ensuite j'ai fait les Beaux-Arts de Paris, donc je suis diplômée en 2012 et que j'étais dans les ateliers des artistes Jean-Luc Villemout et Michel François. Je suis vraiment devenue artiste, on peut dire, au sens où j'ai commencé mes premières expos en 2010.
Est-ce que tu peux approfondir un petit peu ton intérêt pour la guerre et un travail réalisé à partir des munitions et des cartouches, des armes utilisées pendant les différents conflits ?
J'ai pas connu ces périodes, donc j'ai une sorte de distance qui est assez grande par rapport à ces objets. Je peux les interroger d'une manière très très détachée, très ludique, aller vraiment dans le détournement. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette idée de comment se procurer ces matériaux aujourd'hui. Sont-ils encore dangereux? Pour la plupart, il y a des législations qui sont un petit peu entre deux, donc c'est assez intéressant. On a le droit de les avoir chez soi, mais on n'a pas le droit de les envoyer ou de les transporter. Il y a plein de choses qui sont assez intéressantes et qui montrent bien les contrastes dans lesquels nous vivons. Je me nourris vraiment du contexte de la vie réelle et c'est vrai qu'il y a un contexte de peur depuis quelques années lié au terrorisme et à tous ces conflits, etc. Donc je me nourris vraiment de toute cette actualité pour essayer de transmuter ces matériaux en d'autres choses, d'autres propositions, essayer de créer un fort décalage. Aussi d'interroger des cultures différentes. Je travaille beaucoup en lien avec les cultures orientales, le Tibet en particulier, mais aussi les Amérindiens. Je suis allée étudier aussi tout ce qui était l'art guerrier dans les réserves, notamment au Canada, chez les Indiens Hurons. Voilà, je me déplace énormément et j'essaye de faire des ponts entre cette production guerrière occidentale, industrielle, et l'esprit guerrier des peuples premiers et des spiritualités anciennes, où en fait l'aspect guerrier est complètement inclus dans la spiritualité. Il n'y a pas cette notion de dualité comme en Occident. Donc, je suis très intéressée par ces cultures non-duelles, en fait, et ça part un petit peu de tout ça. Après, dans mes travaux récents, je suis beaucoup sur les champs de bataille, donc notamment à Verdun, où je travaille en collaboration avec des démineurs, mais aussi des historiens. Toutes ces démarches nourrissent mon travail. Et le projet que je mène actuellement s'appelle Spirits of War. C'est l'idée de, est-ce qu'il reste quelqu'un sur les champs de bataille? Est-ce qu'il y a encore potentiellement des esprits ou quelque chose? Et donc là, j'emmène des gens du milieu qui travaillent autour des mondes invisibles, donc des gens qui par exemple, travaillent sur les états modifiés de conscience, comme Corinne Sombrin, qui est une chamane qui travaille avec des neuroscientifiques. Donc il y a toujours cette démarche terre-à-terre qui va croiser cet aspect spirituel. Et donc je l'invite à faire des expériences de transe chamanique sur différents lieux très chargés à Verdun. L'idée, c'est de toujours amener un nouveau point de vue, essayer de voir si quelque chose subsiste. C'est des vidéos qui sont très énigmatiques et je suis vraiment sur ces terrains-là en ce moment. C'est vraiment ce qui me fait vibrer en ce moment.
Tu expliquais que tu collectais les munitions en collaboration avec des démineurs. Mmh. C'est facile de trouver des cartouches, des balles, et comment est-ce qu'on les conserve? Est-ce que c'est facile de transporter ensuite les œuvres à proprement parler?
C'est facile et compliqué. On se rend compte que finalement, on peut en trouver un petit peu partout. Ensuite, quand on travaille avec des spécialistes, souvent, il faut les conquérir, leur expliquer, toujours expliquer sa démarche, expliquer que c'est dans un but positif. Et vraiment, il y a tout un travail de conquérir toujours son interlocuteur pour pouvoir récupérer ses matériaux. Je travaille beaucoup aussi par Internet. J'ai développé toute une stratégie, notamment en adoptant des pseudos masculins sur des sites militaria, de collectionneurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que je les reçois par la poste. Donc il y a toujours aussi cette démarche où j'ai toujours peur de ne pas les recevoir. Je reçois notamment beaucoup de matériel de Pologne, de pays de l'Est, etc. C'est toujours très... disons qu'on est à une frontière. C'est des objets qui ne sont pas dangereux, puisque de collections anciens ou toujours déminés, toujours... Mais il y a toujours ce risque potentiel. Et sinon, aussi pour l'anecdote, j'ai aussi certaines pièces du mal à les commercialiser, puisque certaines pièces, notamment les obus qui sont présents donc, dans l'exposition, c'est une pièce qui s'appelle Freerider, c'est des obus de la Première Guerre mondiale qui sont montés sur des trucks et des roues de skateboard. Et c'est une pièce qui a été exposée dans de nombreux musées, plusieurs fois en galerie. Et en fait, il y a une proposition d'achat d'un collectionneur new-yorkais. On n'a jamais pu l'envoyer parce qu'il fallait vraiment prouver que tout était neutralisé. Et envoyer la pièce en morceaux à Saint-Étienne, qui est un grand centre de neutralisation des objets de guerre. Et ça a un coût très important. Et par exemple, c'est des pièces qui n'ont jamais pu voyager. Pour l'instant, beaucoup de pièces restent en France à cause de ça. On pointe du coup des contrastes intéressants entre les États-Unis qui sont dans un surarmement, tout le monde peut avoir son revolver, ses armes même presque de guerre, et un vieil obus de 14-18 n'a pas pu traverser. Donc, je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes qui révèlent un peu notre monde, la manière dont il fonctionne. C'est un peu une expérience de vie en fait, c'est global, c'est pas que des objets entre guillemets à vendre, il y a toute une histoire à chaque fois de comment les récupérer. Aussi à savoir que les objets coûtent plus cher à neutraliser de manière à les garder intacts que de les faire exploser. Donc il y a de moins en moins d'objets disponibles aussi puisque le démineur passe par là et c'est des objets un peu en voie de disparition aussi.
Freerider, l'œuvre Freerider, tu as monté un obus sur des roulettes de skateboard. On pourrait prendre ça pour une provocation. Alors, est-ce que c'est une provocation et est-ce que ça transforme l'obus en arme de distraction massive?
Ah. En fait, je pense pas que ça tourne en ridicule l'objet, puisque cet objet est déjà tourné en ridicule par toutes les personnes qui en ont créé des vases. C'est un objet, notamment quand j'ai fait mes études à Caen, j'ai pu constater toutes les nombreuses mutations de cet objet. Déjà, les poilus ont tenté de détourner cet objet en objet de paix, en réceptacle pour des fleurs, en encrier, en cendrier. Enfin, cet objet s'inscrit un petit peu dans toutes ces mutations qu'a connues cet objet, qui est devenu le support d'un art naïf et populaire, mais à grande échelle. Et c'était un petit peu l'idée de le mixer avec une culture très actuelle, très très cool, et aussi de se donner cette idée que peut-être il se réactive par ce potentiel, pourrait peut-être redécoller, rouler, etc. Donc il y a un potentiel de réactivation qui indique une petite zone de danger aussi. Quand on est face à l'œuvre, elle paraît un petit peu menaçante aussi. Menaçante et ridicule et naïve, donc il y a vraiment tous ces champs que j'ai voulu un petit peu mettre ensemble. Et aussi, ce qui m'a plu, c'est que moi, je suis vraiment dans les aspects plastiques. Je suis vraiment dans l'art visuel. Donc c'était l'idée que l'obus était à l'échelle d'un skateboard et que ça coïncidait parfaitement à son échelle. Visuellement, c'est très efficace et très juste. Donc il y a aussi ce questionnement-là.
Tes œuvres sont exposées dans une exposition qui s'appelle « Un monde intranquille ». On les trouve dans un espace qui, lui, s'appelle « Une violence sous-jacente ». Qu'est-ce que ça t'inspire, ce terme de violence sous-jacente ?
Disons que dans toutes les expos, on est invité, on choisit pas forcément les catégories dans lesquelles on nous place, mais dans le cadre de cette exposition, je trouve qu'elle est assez intéressante, enfin ce terme sous-jacent, puisque c'est que des objets au potentiel dangereux qui sont réactivés dans le champ de l'art. Donc en effet, c'est des objets de violence, de guerre, de mort qui deviennent quelque chose d'autre, donc c'est tout à fait, enfin, je trouve que c'est un très bon terme et... Bien qu'en travaillant beaucoup avec ces objets, je ne vois plus leur violence. Il y a aussi ça, ils sont très très neutralisés. Et je pense que les personnes qui connaissent bien mon travail ne les voient plus du tout comme une sorte de menace. Donc c'est aussi intéressant. Ils ont vraiment réussi à incruster un autre domaine et à devenir autre chose.